France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir. On s'intéresse au rapport que les Français entretiennent avec leur voiture, avec un chapitre nostalgie. Dès qu'on évoque la voiture de nos parents, quand nous étions assis, forcément à l'arrière. D'ailleurs, les Français sont très nombreux à reconnaître un engagement émotionnel avec cet objet à quatre roues qui nous accompagne une bonne partie de notre vie. Alors, qu'est-ce que cette voiture incarne désormais, selon les générations ? Comment concilier le plaisir automobile avec la conscience climatique de chacun ? Cette voiture est-elle toujours un marqueur social qui nous représente ? Longtemps symbole du virilisme, y a-t-il aujourd'hui encore des voitures pour hommes, d'autres pour femmes ? Et plus largement, quelle serait votre voiture idéale ? Les uns la veulent puissante, d'autres la veulent totalement connectée ou bien encore très confortable. On va tenter de ce soir, on va tenter de répondre à toutes ces questions. Venez nous raconter votre rapport à la voiture, le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Avec un premier auditeur qui nous appelle du Lot, Patrick. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir. Oui.
Pour un témoignage ou une question ?
Alors écoutez, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure au technicien, à savoir que, alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, parce que je pense que Élu en a déjà parlé, de notre dépendance aux engins, quoi. À savoir, la voiture qui a été pendant des années un outil de libération, de liberté, de découverte, etc., quoi, est devenue depuis quelques années quand même une contrainte, un problème, quoi. Même, alors individuellement, collectivement aussi, mais individuellement. Alors là, par exemple, on habite dans le Lot, dans la campagne, et on n'a pas de voiture. Et tout le monde nous fait remarquer, mais comment vous faites ? Comment on peut vivre un temps sans voiture ? Je crois qu'il faut traduire les choses correctement. Hein. En fait, on est prisonnier de notre voiture. C'est devenu plus qu'une contrainte, c'est devenu une prison. On ne peut plus vivre sans voiture. Voilà, bon, c'était juste une remarque comme ça, parce que...
Très intéressante, votre remarque, je vais la soumettre à nos invités. Il y a trois invités ce soir pour vous répondre. Alexandre de Saint-Léon, vous êtes directeur monde automobile et mobilité chez Ipsos. Il y aura Mohamed El-Khatib, dramaturge, metteur en scène. Vous avez réalisé un documentaire intitulé Renault 12, qui nous éclaire d'ailleurs sur le rapport émotionnel affectif à la voiture, c'est lié à l'enfance. Il y a eu le film ensuite 504 l'an dernier, et puis une prochaine exposition au Grand Palais à Paris. On va parler là aussi de 504, on en reparlera. Et également présent pour vous répondre ce soir, Mathieu Flonneau. Vous êtes historien, spécialiste des mobilités, de la civilisation de la route et de l'automobilisme, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Merci d'être venu, bonsoir à tous les trois. Notre premier auditeur parlait d'une voiture comme d'une contrainte, d'une prison. Je me retourne vers vous, Alexandre de Saint-Léon, à Ipsos. Vous avez fait paraître l'an dernier une étude qui semble dire le contraire. Il y a 2/3 des Français, je crois, qui prennent du plaisir à avoir cette voiture.
Oui, 2/3 des Français nous disent que le plaisir, enfin conduire une voiture, avoir une voiture est une source de plaisir. Ils reconnaissent également la dimension, je ne sais pas si c'est une contrainte, mais le fait que la voiture est au centre de leur vie.
Dépendance.
Mais c'est aussi une source de libération, ils le disent également. Donc, 2/3 des Français parlent de plaisir automobile. Absolument.
Mathieu Flonneau, cette voiture donc très ambivalente, à la fois du plaisir, à la fois une contrainte, on trouve le curseur où finalement ?
Dans une profondeur historique qui fait que le débat n'est évidemment pas nouveau. Jacques Ellul a été cité à l'instant par votre auditeur, Bernard Charbonneau, André Gorz, des intellectuels très actifs dans une forme de contre-société avec l'écologie naissante, l'on pensait, au début des années 1970. Donc on parle quand même de... Il y a plus d'un demi-siècle, ceci était déjà bien apparu et bien clair. Simplement, depuis aussi plus d'un demi-siècle, et même depuis un siècle, s'est construite une civilisation cohérente, dont on est à certains égards en effet dépendant, mais que l'on a beaucoup désiré aussi. Et on y reviendra très probablement, mais c'est cette ambivalence qui fait que l'attachement, il est double. C'est celui qui rend prisonnier, mais c'est celui aussi qui libère. Et le curseur, c'est votre question, il est difficile de le placer, mais c'est une réflexion sur toute la vie privée aujourd'hui. Parce que toute la vie privée aujourd'hui est en laisse à certains égards, avec les données, le numérique, etc. L'automobile demeurait une part de liberté.
D'ailleurs, je rappelle que vous êtes spécialiste, historien et spécialiste des mobilités, de la civilisation de la route et de l'automobilisme. Ce isme qui était ajouté à l'automobile, c'est une société, c'est une civilisation, l'automobile ?
Ce sont tous les usages, c'est effectivement tout ce qui accompagne l'objet technique, qui a son intérêt, indiscutablement, dans l'attachement, c'est sûr, mais bien au-delà, c'est les bords de route, c'est la profondeur, les adossements patrimoniaux, industriel, c'est une société économique qui est créée également. Et aujourd'hui, effectivement, on parle d'une question qui ne vient même pas à l'esprit des Chinois qui viennent au salon de Shanghai ces jours-ci voir le plus grand événement automobile au monde qui se tient avec 1000 constructeurs automobiles en ce moment. Donc il faut bien voir que ce débat, il est un peu blasé sur les bords de Seine. Il est un peu distant de ce qui est la réalité de l'automobilisme aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation de cette pression certes routière environnementale, qu'il s'agit bien de considérer, mais qui, sur d'autres continents, ne se ressent pas du tout négativement.
Et puis je le disais en préambule, la voiture c'est aussi la nostalgie, et ça c'est votre affaire, hein, Mohamed El-Khatib, on vous doit le film documentaire Renault 12, votre voyage en R12 entre la France et le Maroc pour une question d'héritage, un voyage parfois sous la pluie avec un seul essuie-glace. Cette voiture, à l'époque, à ce moment de votre vie, vous veniez de perdre votre mère. Qu'est-ce qu'elle représentait, cette voiture, pour traverser la France jusqu'au Maroc ?
C'était un peu comme un doudou. C'est un objet transitionnel, la voiture. Et donc, c'est une machine à histoire. C'est-à-dire que le simple fait de conduire, d'être à bord d'une Renault 12, c'est, non seulement ça vous replonge, c'est une espèce de Madeleine de Proust dans les racines familiales, mais c'est aussi être le réceptacle de toutes les histoires des gens que vous croisez, qui vous disent « mais mon père a eu la même, mais mon grand-père en a une aussi, et ma tante, je me souviens ». Donc c'est une formidable machine à souvenirs qui relie les gens. Et puis, pour répondre à la première question de l'auditeur, ça dépend aussi de l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une pratique individuelle de la voiture si vous êtes dans le 16e, une pratique du SUV, mais quand vous êtes dans les quartiers populaires, je me souviens qu'il y avait la voiture qui servait pour tous les voisins. Et à un moment donné, mon père a eu une Renault 21 Nevada, break, et donc c'était, on a besoin d'aller faire des courses, on emprunte la voiture, et donc c'était aussi un outil de solidarité et de rencontre.
Merci pour ce premier témoignage. On va retourner au standard. Anne nous appelle de Cahors. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Oui, eh bien, c'est avec beaucoup, j'ai 58 ans et c'est avec beaucoup d'émotion que je repense à la première voiture dont je me souviens de mes parents, qui était une Renault 8 jaune pâle avec des sièges en cuir en Skype, plutôt rouge, qui collait bien quand il faisait chaud et qui avait des phares ronds. Voilà, et je suis très émue quand je pense à cette voiture parce qu'elle nous amenait en vacances dans des trajets qui duraient longtemps parce qu'on ne roulait pas vite. Et voilà, et quand mes parents l'ont vendue pour acheter une Renault 12, puisque vous parlez des Renault 12, orange avec les vitres teintées, c'était quand même quelque chose. Et bien avec ma sœur, on était très tristes de se séparer de cette Renault 8. Donc oui, une voiture peut amener une certaine nostalgie d'une époque.
Bien, merci de ce beau témoignage, Anne. Je vais me retourner vers Alexandre de Saint-Léon pour commencer. Cette nostalgie de la voiture des parents, ça marche quelles que soient les générations? Il y a toujours une voiture qui nous fait rêver parce que c'est lié à l'enfance?
Ça peut être lié à l'enfance, c'est aussi un rite de passage important. On se souvient très souvent de sa première voiture, qui est vécue très souvent comme un moment d'émancipation et d'accès à la liberté. Donc oui, cette relation émotionnelle, on la voit dans toutes les études qu'on mène, absolument.
Chez Ipsos, Mohamed El-Khatib, c'était une époque où l'on fumait dans les voitures, y compris en présence des enfants. Cet habitacle sur de longues distances, qu'est-ce qu'il racontait, cet habitacle, quand la famille était réunie à l'intérieur ?
c'est tout de suite le souvenir d'une épopée, effectivement. Les parents fumaient à l'intérieur. On n'était pas attachés, nécessairement. On s'entassait à plusieurs, dans des épopées qui duraient parfois plusieurs jours. Et donc, on recréait un espace domestique un peu familial. Et je me souviens notamment des gris-gris dans les voitures, enfin, qui sont les objets qui étaient une façon de domestiquer la voiture, de se l'approprier comme si c'était une maison sur roulette. Et donc, paradoxalement, je me souviens que c'était le seul endroit où on faisait famille, c'est-à-dire que le seul endroit où on était tous réunis au même moment sur un long temps et qu'on était obligés de se parler.
C'est voilà. Le seul ça, endroit où l'on faisait famille. Diriez-vous que la R12 faisait partie de la famille?
Ben, ce qui est formidable, c'est que j'ai rencontré une centaine de personnes pour me raconter l'histoire des, dans les années 70-80 du retour au bled. Et à chaque fois qu'ils me montraient des photos de famille de l'époque, la voiture figure sur la photo comme si c'était un membre de la famille. Et ça, c'est très parlant.
Mathieu Flonneau, pourquoi l'automobile est-elle un objet si patrimonial, un peu comme faisant partie de notre socle commun ?
Tout à fait. Alors, c'est pas une brosse à dents, c'est pas quelque chose qui laisse indifférent. C'est quelque chose déjà d'un certain prix, d'un certain encombrement, qui porte tous les moments de la vie privée, les moments importants, qui est un moment transitionnel pour l'accès à des classes d'âge supérieures, qui est un moment aussi de progrès social, indiscutablement. Et là, c'est la dimension nostalgique sur laquelle, évidemment, on pourrait s'étendre, mais les Trente Glorieuses ont porté ce développement des mobilités sociales et des mobilités tout court. Et ce qui vient d'être évoqué par l'artiste metteur en scène Mohamed El-Khatib avait été aussi exploré par l'artiste Thomas Mailander, qui avait écrit sur les voitures cathédrales et photographié des voitures cathédrales. Certaines de ses œuvres sont au musée à la Cité Nationale de l'Immigration à Paris, et ces voitures sont en fait des mules qui ramènent en Afrique du Nord la vie qui s'est construite en Europe pour les pays population immigrée. Et ce rituel annuel, qui parfois faisait que sur l'autoroute on croisait ce genre de voiture, nous ramène à l'essence même de cette métaphore de la cathédrale, de l'objet populaire. Et Roland Barthes, dans les mythologies, l'avait investi en 1957. Il parlait de la déesse Citroën.
Qui est à la une de ce livre, d'ailleurs, des
Absolument,
mythologies.
Absolument, sur la couverture. Et c'est une dimension qui est évidemment culturelle, qui est encore une fois, avec la profondeur d'un cliché, parfois d'une idée reçue, mais que la sociologie aplatit d'une façon très, très coupable, je pense, parce que l'on manque, avec une approche trop sciences sociales, ce qui fait l'humanité. Donc là, il faut le regard de la profondeur de la science humaine. Évidemment, c'est de l'humain. Évidemment, c'est de l'humanisme même. L'automobilisme est un humanisme. C'est une formule que j'emploie parfois parce que elle donne cette perspective sur ce qui n'est pas qu'un objet technique, sur ce qui est investi familialement, investi par la vie privée, et qui n'est pas un objet d'imaginaire médiocre. Et on a beau vouloir nous reconstruire aujourd'hui les choses, la nostalgie résiste et elle a quelques raisons de résister.
01 45 24 7000, Philippe nous appelle de Boissy-Saint-Léger. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ok. Alors, moi, contrairement à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, j'ai aucun rapport affectif avec la voiture que j'ai. C'est un outil de service. Et bon, je suis bien content de l'avoir parce que elle me rend service, mais je m'interroge sur j'aimerais bien que l'autopartage avance. Moi, ça ne me viendrait pas du tout d'avoir une voiture partagée avec X personnes du moment que je l'ai sous la main quand j'en ai besoin. Mais à part ça, la voiture en tant que propriété, en tant que rapport affectif, pour moi, ça n'existe pas.
Merci de ce témoignage, je vais la soumettre, et de cette question un peu, je vais la soumettre à Alexandre de Saint-Léon. L'autopartage, bon, ça fait un peu flop tout de même, des expériences ont été lancées, ça n'a pas été très concluant.
Il progresse peu en France, il progresse davantage dans d'autres pays, comme l'Espagne par exemple, ça progresse davantage. C'est pas encore, mais je crois que c'est surtout une question de modèle économique qui n'est pas tout à fait au point, ou pas suffisamment rentable pour progresser davantage. Et pour répondre également à ce que vient de dire notre auditeur, les Français, quand on fait une segmentation, on a parlé de 64%, donc qui nous déclare
affirme du plaisir.
Sur le même, dans le même registre, on a 24% qui disent « moi j'ai une relation pragmatique avec ma voiture ».
Donc il en fait partie.
Il en fait partie.
Voilà. Je lisais votre enquête Ipsos, le covoiturage décline ?
En France, oui, légèrement, mais oui. En France, oui. Cette année, enfin en 2024 en particulier, au cours des 12 derniers mois, il a baissé à peu près de 3%. Comme je vous le disais, il progresse en Espagne, par exemple. Il progresse dans d'autres pays d'Europe. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une... peut pas dire que ce soit... il a des chances de progresser à nouveau.
Ouais. Une séquence. Oui. Mathieu Flonneau, vous évoquiez les 30 Glorieuses. On va rappeler que dès 1946, juste après-guerre, les Français se sont précipités au Salon de l'Automobile. C'était là aussi déjà source de plaisir, cette voiture.
Oui, mais alors justement, le Salon de l'Automobile, le mondial désormais, porte toutes ces nouvelles mobilités qui visent à investir d'usage collectif la route, l'infrastructure, qui n'est pas déterminée pour être seulement dédiée à des véhicules individuels. Alors, c'est une question de mobilité cette fois-ci. C'est une question de mobilité avec ce développement du covoiturage que vous évoquez. Mais ce qui aussi rend les routes et la civilisation routière incontournables, c'est toute la logistique, tout le fret, tous les transports de marchandises, tout le camionnage. Et donc là, c'est des choix de politique publique, d'investissement dans les mobilités, qui oblige à des arbitrages. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut investir dans le fer, dans le rail, mais il faut réfléchir au ferroutage. Il faut réfléchir à développer les filiales de la société nationale, et ces filiales sont à la peine pour remplacer les camions. Donc ce sont vraiment des politiques publiques à investir. Le covoiturage est aujourd'hui une politique publique qui se développe. Quand même, les résultats sont parfois mitigés, mais ils se développent.
Et l'automobilisme dont on parlait au début englobe justement toutes ces recherches et ces politiques publiques que vous attendez de vos voeux. Catherine est en ligne de Saint-Nazaire. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir. Moi j'appelle juste pour témoigner que j'ai arrêté la voiture il y a 3 ans. Un vrai choix en fait, hein, parce que j'ai réfléchi, c'est pas une histoire... de budget, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai une voiture que je peux pas garder parce qu'elle était pas en bon état, j'arrête et puis je vais voir comment je vis sans voiture. Et donc, j'ai partagé une voiture pendant un long moment avec une amie qui l'utilisait pas beaucoup, on l'a partagé, vraiment c'était très intéressant, c'est-à-dire on partageait l'assurance, le contrôle technique, les réparations, tout ça, on s'en servait vraiment sur un agenda de loisirs, de départ, de week-end. Et j'ai trouvé ça super, parce que sinon le reste du temps, moi sur Saint-Nazaire, je suis à vélo. Et puis surtout, j'ai découvert un maillage de transport en commun. Je vais partout où je veux, en train, en car. J'ai découvert le car, je trouve ça super. Et puis voilà. Et là, récemment, je me suis interrogée pour en racheter une, parce que je voulais partir en van aménagé. Puis finalement, non, parce qu'avoir une voiture garée dans ma rue où je m'en servirais très peu, je vois pas l'intérêt. Donc, je poursuis sans voiture. Et par contre, si j'ai vraiment envie d'en avoir, parce que j'adore conduire et puis je fais des escapades des fois, et ben j'en louerai une et puis ça me va très bien.
Et donc, je précise, vous l'avez dit, que ce n'est pas une question de budget au départ, c'est une question de choix de vie, hein, c'est bien ça.
Tout à fait. Ceci dit, ce n'était pas du tout une question de budget au départ. Ceci dit, quand je vois les économies que je fais, même si j'ai des cartes d'abonnement en train, même si je prends le car, etc., ben, franchement, je suis gagnante. Et la vie est facile quand même.
Merci beaucoup de ce témoignage. Alexandre de Saint-Léon, chez Ipsos, on a remarqué que la voiture était restée encore le moyen de transport que les Français utilisent le plus pour partir en vacances, hein, je crois.
Oui, c'est toujours le cas, très largement. Plus de 80% l'utilisent au quotidien et c'est encore un moyen de transport incontournable, notamment pour les vacances et les week-ends.
Et les trajets courts aussi, hein, je crois.
Oui. Dans les deux cas. Alors, juste pour rebondir sur l'intervention de votre auditeur, 25% des Français déclarent aujourd'hui, à l'avenir, j'envisage de ne plus posséder de voiture. C'est moins que la moyenne européenne, qui est plutôt à 32%. On parlait d'une relation complexe. Je pense que on est bien dans cette relation complexe. Elle a toujours un rôle central. On envisage éventuellement de plus l'en avoir à l'avenir, mais on continue d'aimer sa voiture. Et votre auditrice le disait d'ailleurs, elle aime conduire.
Elle le dit, elle aime conduire. Dans les mobilités, on a vraiment le choix aujourd'hui de dire, eh bien moi, je fais le... La preuve, Catherine de Saint-Nazaire a fait le choix. Ça reste marginal ou est-ce qu'on peut effectivement aujourd'hui partir en vacances, même très loin, sans voiture, même si on doit faire des allers-retours et sillonner, rayonner dans le secteur où on a choisi notre résidence?
Alors c'est difficile, mais c'est le rapport de l'offre et de la demande. Et de fait, Un mode a été évoqué à l'instant, c'est le car, l'autocar. La Fédération nationale des transports de voyageurs a développé considérablement son offre. Il y a là des enjeux que les cars Macron dérégulés, qui ont fait la célébrité à nouveau du regain de ce mode de transport cohérent, eh bien, ont remis au devant de la scène. Il y a effectivement des offres, parfois, qui peuvent exister comme alternatives. Ce qui se conjugue aussi avec une lecture plus décarbonée de la vie, plus low cost, plus slow également. Le slow tourisme, ça commode. Voilà, avec également des possibilités.
Je précise, de vivre plus lentement.
De vélo.
Reprocher de faire des anglicismes.
Oui, mais alors celui-ci est particulièrement adapté, puisque effectivement, il y a là une douceur qui peut être recherchée par certains. Donc le choix s'ouvre. Mais plus que de réduire la place de la voiture, ce qui vient d'être dit par l'interprétation du sondage, c'est que c'est une offre supplémentaire. Et à la fin des fins, l'équilibre écologique, il est difficile à trouver quand on accumule les offres.
Je reviens à vous, Alexandre de Saint-Léon, chez Ipsos. Dans votre étude, une grande majorité des Français, pour eux, la voiture reste incontournable.
Absolument. Quand on leur
80%
exactement disent que ils pourraient pas vivre sans voiture.
Et quand on taxe, puisque cette voiture est incontournable pour 80% des Français, quand on commence à augmenter les taxes sur les voitures, ça donne les gilets jaunes, qui étaient en périphérie. Hein.
Oui.
Les gilets jaunes sont nés de ces personnes périphériques et qui n'avaient pas les moyens, souvent avec deux voitures par foyer, d'assumer ces charges. Ce soir, racontez-nous notre et votre rapport à la voiture. Le téléphone sonne jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Claire nous appelle de Saint-Nom-la-Bretèche. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir.
Racontez-nous votre rapport à la voiture, avec plaisir.
Je souhaitais apporter un témoignage tout à fait personnel. Hein. Je suis loin d'en faire une généralité, mais le fait est que c'est bien ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai besoin, moi, dans mon quotidien, d'avoir une toute petite voiture, mais néanmoins une voiture qui ait quand même un petit peu de puissance. Et donc, je me suis acheté une voiture de sport de marque italienne, avec une préparation automobile spéciale. Et je me suis très, très vite rendu compte que la voiture était un objet quand même masculin, dans le sens où c'est très difficile, encore aujourd'hui, pour une femme de conduire une voiture de sport. Donc, j'ai eu toutes sortes d'aventures avec cette voiture, de me faire accoster alors que je suis en train de conduire jusqu'à me proposer de faire la course ou encore ça a été quand même assez récurrent vraiment de me faire prendre des queues de poisson ou ce genre de choses par des hommes à chaque fois pour moi ça reste quand même la voiture reste un objet en tout cas masculin pour ce qui est de la voiture de sport et je trouve que sur ce sujet-là, la France a du mal un petit peu à évoluer. C'est vrai qu'une femme au volant d'une voiture de sport, c'est toujours un petit peu mal vu par les hommes, ou en tout cas, on est vite prise à partie. Donc, j'ai revendu ma voiture pour m'acheter quelque chose de peut-être moins voyant, ou en tout cas moins sport, qui ne convient pas au final. Mais je suis bien plus tranquille.
Et vous n'êtes plus agressé. Merci beaucoup de ce témoignage, Alexandre de Saint-Léon. Est-ce que les constructeurs font des voitures pour les hommes et des voitures pour les femmes, aujourd'hui encore ?
On leur a longtemps reproché de ne pas faire suffisamment de voitures pour les femmes. C'est très compliqué parce que quand on regarde la sociologie des acheteurs de véhicules neufs, c'est principalement des hommes. En même temps, ils vous disent qu'ils sont très influencés par leurs femmes. Mais au final, c'est très souvent eux qui lead, pour utiliser un anglicisme, enfin qui conduisent le processus d'achat. Mm-hmm. Et donc c'est difficile pour les constructeurs. Je vous peux admettre la difficulté.
Mathieu Flonneau, dans le début des années 60, on a vu la féminisation de l'automobile, c'était la 4L.
Oui. Oui, oui, absolument. Il y a des modèles qui ont été envisagés avec des promotions. Et donc là, c'est aussi toute la question du marketing, marketing parfois toxique, autour du masculinisme qui vient d'être évoqué. Je rebondis juste sur ce point qui a son revers, évidemment, très sérieux, tragique, qui est l'accident de la route. Rappelons que 85% des victimes sont occasionnées par des hommes au volant. Que 95% des grands excès de vitesse sont occasionnés par des hommes. Donc là, il y a une vérité statistique.
La voiture est encore un marqueur du virilisme.
La voiture dans ses déviances, oui, évidemment. Mais ses déviances sont aujourd'hui reconnues comme des déviances. Et là, il faut quand même intégrer une forme de maturité, une forme de civilisation progressive, de processus de civilisation progressif autour des conduites qui se sont quand même lissées, et heureusement, et qui aujourd'hui font que des conduites alcoolisées ou des conduites sur stupéfiants sont réprimées comme elles doivent l'être, c'est-à-dire comme des déviances dans la société et éventuellement des faits qui relèvent d'une forme de délinquance et d'insécurité dans un continuum de sécurité problématique dans la société aujourd'hui. Mais c'est un enjeu indiscutablement qui demeure, notamment au travers d'excès du marketing qui demeure très présent dans le quotidien. Ceci, vous ne l'enlèverez pas, il y a toute une tradition également du cinéma avec ces exceptions que vous évoquez. Le road movie Thelma et Louise, c'est une grande exception qui fait que deux femmes se saisissent d'une automobile.
Mais justement pour se venger des hommes qui étaient trop virils. Justement.
Voilà, un élu.
Oui. Mohamed El-Khatib, c'est un homme, c'est votre père, hein, je crois, qui avait un livre sur la R12 en même temps qu'un poster de Platini. Alors là, la mythologie était complète pour vous. En 72, je crois.
Oui, c'est ça. C'était assez drôle. On voit Michel Platini un peu christique comme ça, posé à côté de la Renault 12. Mais sur cette question... C'est aussi une question de contexte social et politique. C'est-à-dire que dans les classes populaires, dès lors que vous aviez des hommes qui... C'est la seule chose dont ils pouvaient être propriétaires. Donc il y avait aussi une certaine fierté, il y a une forme de dignité. Vous pouviez pas vous payer une maison, vous étiez broyé à l'usine. Et donc le seul endroit où vous existiez, où vous pouviez exister, montrer que vous aviez un peu réussi, c'était la voiture. Et donc vous jetiez vos économies et vos forces là-dedans. Donc c'est aussi à me relativiser.
Je parlais de votre père. Pourquoi la R12 était-elle très prisée au Maroc dans les années 70-80 ?
Et c'est amusant, selon les pays, c'est la Renault 12 au Maroc, la 504 en Algérie, parce que ce sont des voitures increvables. En fait, d'un point de vue écologique, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui combien de voitures vous avez au cours d'une vie, mais à l'époque, vous pouviez pendant 20-30 ans rouler avec une Renault 12. Parce que c'était une mécanique archaïque, réparable extrêmement facilement. Et donc, il y avait une pratique de la casse automobile, et vous rafistoliez votre Renault 12, tout le monde pouvait la bricoler, et ça durait une éternité.
D'ailleurs, on voit dans votre film un garagiste qui repère votre Renault 12 et qui dit « Mais voilà une voiture qui était capable de traverser le monde entier, et il n'y avait pas d'abracam en tête, tout était mécanique et facilement réparable. » Loïc nous appelle de Bagnolet. Bonsoir Loïc.
Bonsoir, bonsoir.
Vous êtes nostalgique.
Vous parliez de nostalgie. Et alors, commençons par dire que je suis né en 72, que j'ai 53 ans, et que je me désole depuis les années 90. Je sais que nous, Français, sommes pionniers de la création assistée par ordinateur, avec un logiciel qui s'appelle CATIA, dans l'aéronautique, et qu'on a fait des progrès incroyables. Ok, mais je me désole du fait que toutes les voitures se ressemblent. On a tous une savonnette, une espèce de gélule. Bon, bref, je pense à la 4 chevaux. Alors oui, les portes s'ouvraient à l'envers. Je pense à la Dauphine. Alors oui, il fallait mettre un parpaing à l'avant, parce que le moteur était à l'arrière. Mais voilà. C'est de ça dont je voulais parler. C'est
merci
que
beaucoup.
L'uniformisation esthétique des voitures est triste. Et je termine par juste deux petites références culturelles. Moebius, Jean Giraud, le dessinateur de BD.
Oui.
Une BD qui s'appelle Sur l'étoile. Et aussi Paul Virilio, Esthétique de la disparition, où il explique que la crise du cinéma a été créée à partir du moment où chacun avait son pare-brise, son écran, et son road movie.
Merci de ce témoignage. L'uniformisation des voitures. Je crois me rappeler que ça a commencé, je me tourne peut-être vers vous, Mathieu Flonneau, avec la R14, la poire. ces voitures qu'on a vues sans haillons finalement, mais avec une grosse goutte horizontale.
Oui, alors c'est quand même un débat très très récurrent, et je peux être pessimiste sur beaucoup de sujets, pas sur celui-ci.
C'est-à-dire
que je pense que cette uniformisation est quand même très discutable. Et
le salon les SUV, se ressemblent tous aujourd'hui.
Mais on ne parle pas de voitures là.
Ok, donc, d'accord.
Effectivement. Okay. Non, précisément, y a, c'est un sujet à prendre très au sérieux et à bien catégoriser. Il y a toute une typologie des carrosseries. Il y a des inventions toujours possibles dans ce monde qui a des impératifs de sécurité, qui est aussi secoué par la transition vers l'électrification, parce que ça alourdit les véhicules et ça tend à effectivement faire que les carrosseries, mais pour ce type de véhicules que vous avez évoqué, les Sport Utility Vehicles, à les rendre très largement interchangeables. Ceci, on peut le déplorer. Cela n'épuise pas l'essence même de l'automobilisme, tel que effectivement, on peut avoir cette nostalgie, mais c'est pas une stratégie pour l'avenir, qui doit être un avenir toujours productif, autour de ce qu'est l'automobile et de ce qu'elle peut toujours porter comme rêves individuels et collectifs.
Mohamed El-Khatib, vous êtes nostalgique de ces voitures qui avaient trois segments, un capot, un toit et un coffre ?
Moi, ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré Robert Broyer, qui est l'ingénieur qui a inventé la Renault 12. Ah. Et c'était, à l'époque, il y avait des bureaux de design, et ils avaient une liberté absolue. Et malheureusement, les logiques économiques, la standardisation, effectivement, l'a contraint. Et je me souviens qu'il m'a raconté que la Renault 12, initialement, les patrons de Renault lui avaient demandé de faire un coffre plongeant pour pas que les gens puissent les charger de bagages. Et il dit que c'était sans compter sur l'inventivité des gens qui allaient charger les voitures sur le toit et donner des espèces de tours de Babel roulantes. Donc c'est à la fois les ingénieurs, mais aussi les usagers qui décident des voitures du futur.
Hervé nous appelle du Loiret. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir. Écoutez, j'ai pris votre émission un peu en cours et d'un seul coup, évidemment, je suis revenu... mon Dieu, pas mal d'années en arrière, ça me rajeunit pas. Et je me rappelle la 4 chevaux de mes parents, et à bord de cette 4 chevaux, j'avais 6 ans, je suis né en 53, hein, j'avais 6 ans, et c'est la première fois que j'ai vu la mer. Donc, d'un seul coup, mon père m'a dit, tu vas voir, au détour d'un virage, t'as eu un pornichet sur l'Atlantique. Et la première fois que j'ai vu cette étendue d'eau, c'était à travers, évidemment, le carreau de la petite 4 chevaux immatriculée 525 à M45.
Voyez, oui, vous avez encore le numéro.
J'ai encore le numéro. Et tout ça, c'est pour moi plein de souvenirs. Alors, j'ai retrouvé de vieilles photos, bien sûr, où cette voiture est photographiée, bien sûr, avec mes parents, qui, hélas, évidemment, ne sont plus là maintenant. Mais et puis ensuite, eh bien, pour moi, ça a été la 4L, le jour de mon permis de conduire, le jour de 21 ans. Entre-temps, mes parents avaient eu une étoile 6, la fameuse étoile 6 Simca, avec laquelle j'avais 14 ans, mon papa m'a appris à conduire sur les routes de campagne, ce qui m'a permis de passer mon permis avec simplement 3 demi-heures, donc c'était quand même bien à ce moment-là. Et puis après, ben, c'était la 4L, ça a été la Renault 12, bien sûr, pour moi, et puis le summum, quand j'ai eu travaillé pas mal et mis un peu de sous de côté, de m'offrir cette fameuse Matra Baghera qui m'a tant fait rêver.
Matra Baghera, voilà. On était 3 devant, me semble-t-il.
Donc,
elle était jaune.
3 places devant, et un ami me disait c'est un ramasse-fille. Alors, je sais pas si c'était un ramasse-fille, mais c'était vraiment une petite voiture de sport qui m'a fait énormément plaisir. Et puis, ben, après, il y a eu d'autres voitures, bien sûr, mais ce que l'auditeur précédent disait, c'est vrai que toutes les voitures se ressemblent un petit peu. J'ai des amis, mon fils restaure une Mustang Spitfire extraordinaire, une Triumph Spitfire, pardon. Et c'est vraiment des voitures extraordinaires. Bon, évidemment, il faut un chausse-pied pour rentrer dedans, mais
et les roues avec les rayons parfois.
Oui, absolument. Mais tout ça, évidemment, alors votre émission m'a replongé dans ces années 60.
Écoute, où, tant mieux si...
Garçon, j'étais à bord à 60 km/h. Mon papa roulait pas plus vite que ça.
70. Beaucoup de ce témoignage, voilà. Qui effectivement, dans la couleur de l'émission, je vais me retourner vers Mathieu Flonneau, cette mythologie des voitures. Vous en parliez, celle avec Roland Barthes qui nous a expliqué comment les 30 Glorieuses ont fondé, comment Barthes a éclairé ces mythologies. La déesse de 1955 en couverture. En quoi cette déesse, d'ailleurs, a symbolisé un marqueur de la société française,
alors là, celle de 55. On est dans ces lignes, effectivement, qui à l'époque étaient incroyablement futuristes et pourtant produites en série. On est dans ce Nautilus incroyable qui empruntait à la Jules Verne les routes. Mais ce que je retiens quand même, si vous permettez, de l'auditeur précédent, c'est qu'il a employé l'idée de Madeleine de Proust. Et Proust a écrit sur l'automobile, au début de l'automobile. Ouais, et donc les impressions de route en automobile en Normandie ont été fondatrices de cet élan qualitatif vers ce qui constitue aujourd'hui l'objet sensationnel. Cela a été dit, pas besoin de rouler vite. Les sensations qui viennent avec l'objet automobile sont très importantes et privilégie effectivement le fait de baisser la vitre, de prendre l'air. Ça, un téléphone si smart qu'il soit, n'apportera pas ces sensations. Et j'attire quand même l'attention sur une chose, c'est que l'un des grands promoteurs des routes, parce que le souvenir de l'auditeur était lié à une route, à la découverte de la mer, c'était Michelin. Et Michelin avait un guide Michelin qu'il donnait aux chauffeurs à partir de 1900. Et là, récemment, eh bien, un guide Michelin de l'art de rouler en électrique vient d'être créé pour recréer ce goût du voyage, avec la marque DS Automobile d'ailleurs, pour recréer ce goût du voyage avec des étapes, avec le passage à l'électrique qui est plus silencieux, plus respectueux de l'environnement, et donc avec un espoir de ressusciter ce qui a fait l'essence même de l'automobilisme à ses débuts.
Mohamed El-Khatib, il nous reste une grosse minute. Vous allez faire une exposition au Grand Palais au mois de juin, me semble-t-il, et vous allez là encore mettre en évidence la 504, la Peugeot.
Oui, alors oui, c'est une invitation du Centre Pompidou et du Grand Palais, et il y aura exposé une dizaine de Renault 12 et de 504. D'abord, ce que je peux dire, c'est que c'est assez exceptionnel, c'est qu'il y aura une Renault 12 à gagner, ce qui est suffisamment rare, donc les gens qui viennent au Grand Palais au mois de juin pourront repartir, enfin l'un des visiteurs repartira avec une Renault 12. Et la 504, c'est l'autre voiture mythique, et on pourra entrer, embarquer à l'intérieur des voitures et entendre les récits, les témoignages des voyageurs, des deux générations, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'avant des voitures, les parents, et puis les enfants qui étaient à l'arrière, et notamment tout un tas de disputes autour du radio cassette aussi, qui est un des enjeux, la musique qu'on écoutait, la musique des voyages, les combats entre l'avant et l'arrière, donc ce sont le Grand Palais comme une casse automobile qu'on pourra revisiter.
Eh bien, on ira voir ça avec plaisir. Redites-nous les dates de l'exposition.
Du 13 au 29 juin.
Eh bien, merci à tous les trois d'être venus répondre aux auditeurs de France Inter. Le téléphone sonne, c'est terminé. À